Donc je vais plus précisément traiter d'un aspect qui est évoqué dans le film, les relations entre Grenade et la Castille durant les règnes de Mohamed V et Pierre Ier de Castille. Donc c'est à peu près au milieu du XIVe siècle, donc les années 50-60. Une période marquée par des liens politiques très forts et une grande perméabilité culturelle. Ibn al-Khatib a joué un rôle dans cette proximité politique. Et celle-ci a en partie contribué à l'essor artistique de part et d'autre de la frontière. La construction d'une partie de l'Alhambra est en effet contemporaine de celle de l'Alcazar de Séville, l'Alcazar du roi Pierre Ier. Et ces deux palais, destinés à exposer le pouvoir de leur souverain, semblent se jouer des frontières politiques, culturelles et religieuses. Je commencerai par présenter le contexte historique précis de ces relations, caractérisées par un certain pragmatisme politique, au titre. Et j'approfondirai ici la question des relations entre Ibn al-Khatib, Mohamed V et Pierre Ier, qui sont brièvement évoquées dans le film. Et ensuite, j'aborderai l'aspect artistique de ces relations, en analysant les jeux d'influence complexes entre l'Alhambra et l'Alcazar de Séville. Alors dans le film, le vizir Ibn al-Khatib fait allusion à la fin imminente de la présence musulmane en péninsule ibérique. En effet, le sultanat de Grenade constitue le dernier bastion d'Al-Andalus depuis les grandes conquêtes de la seconde moitié du XIIIe siècle par Ferdinand III et Alphonse X. Donc un territoire menacé, mais comme on l'a dit plusieurs fois, qui a connu un âge d'or culturel incroyable et qui a réussi à résister jusqu'en 1492, date de la prise de Grenade par les rois catholiques. Et donc ils ont réussi à résister notamment grâce à un système d'alliance politique avec les royaumes chrétiens et les différentes dynasties du Maghreb. Donc peu après sa formation, l'émirat de Grenade se déclare vassal du royaume de Castille depuis 1246, le pacte de Jaén conclu entre Mohamed Ier et Ferdinand III. Cela signifie que le sultan s'engage à verser au roi castillan un tribut annuel, les parias, et lui promet aide et conseils en échange de paix, protection et sécurité. Le roi de Castille doit en effet aider également le sultan lorsqu'il se trouve en difficulté. Et les liens de vassalité devaient être réitérés après chaque intronisation. Il pouvait aussi y avoir une rupture de ces liens en période de guerre, comme on l'a vu dans le film, avec la bataille del Salado, la bataille du Salé en 1340, durant laquelle se sont affrontées les alliances, d'une part l'alliance chrétienne, les royaumes de Castille, Aragon et Portugal, contre l'alliance musulmane, les Nasrides et les Mérinides de Fès. Donc c'est une des dernières tentatives des musulmans pour récupérer Al-Andalus, comme on l'a bien vu dans le film. Donc à la suite de cette défaite pour les musulmans, le sultan Youssouf Ier signe un accord de paix avec le roi de Castille, Alphonse XI à cette époque. Il se reconnaît comme son vassal et il fait de même avec son successeur Pierre Ier lorsque ce dernier monte sur le trône en 1350. Et donc à la mort de Youssouf, son fils Mohamed V se déclare lui aussi vassal de Pierre Ier en 1354. Alors même si l'hégémonie péninsulaire demeure l'objectif des deux forces antagoniques, que sont chrétiens et musulmans, les règnes de Mohamed V et de Pierre Ier sont considérés comme une pause dans la reconquête, en raison de circonstances historiques particulières. Chacun des deux souverains doit en effet faire face à des menaces ou des difficultés internes à leur royaume, on l'a bien vu également dans le film. Et leur légitimité étant mise en cause, ils ont dû se rapprocher l'un de l'autre, s'entraider, et cela explique aussi qu'ils aient développé un programme architectural destiné à affirmer leur pouvoir, un programme sans précédent. Donc un de ces problèmes internes qui est évoqué dans le film, c'est la destitution de Mohamed V en 1359, quelques années après avoir accédé au pouvoir. Il est détrôné par son demi-frère Ismaël, et se réfugie donc tout d'abord à Guadix. Il demande l'aide de son suzerain, Pierre Ier, mais celui-ci, en pleine guerre contre l'Aragon, refuse dans un premier temps, parce qu'en effet, une guerre avec Grenade aurait menacé la frontière, et il aurait dû concentrer ses forces sur Grenade, ce qui aurait menacé les frontières avec l'Aragon. Donc il ne pouvait pas mener deux guerres en même temps. Donc il décide dans un premier temps de ne pas aider le roi de Grenade et à faire la paix avec l'usurpateur. Et c'est pourquoi Mohammed V s'enfuit à Fès, où il est accueilli par le sultan mérinide Abou Salim. Peu après, en 1360, à Grenade, un autre usurpateur prend le pouvoir en assassinant Ismaël II. Donc cet usurpateur est le roi Vermeil, le rey Bermejo, des chroniques chrétiennes, qui avait lui-même aidé à conspirer contre Mohammed V. Il s'empare du pouvoir et il finit par rompre la paix avec le roi de Castille. Il s'allie avec l'Aragon contre le roi de Castille, ce qui contrarie fort Pierre Ier, bien évidemment. Et c'est à ce moment-là qu'il décide d'aider Mohammed V à récupérer son trône. Donc, d'après la chronique du règne de Pierre Ier, rédigée par Pedro López de Ayala, l'argument qu'avance Pierre Ier, l'argument officiel qu'il avance pour venir en aide au sultan et son devoir de protection, en lien avec ce devoir de seigneur envers son vassal, cet argument est remis en cause par le chroniqueur Pedro López de Ayala, qui affirme que la véritable motivation du roi chrétien est la vengeance et le désir de récupérer des terres que le traité de paix avec l'Aragon l'avait contraint à restituer. Donc Pierre Ier fait pression sur le sultan du Maghreb pour qu'il laisse partir Mohammed V et qu'il le laisse venir à sa rencontre à Séville, bénéficier de son aide financière et militaire pour récupérer son trône. Donc Ibn al-Khatib lui-même, dans Nifadat al-Jiram, des miscellanées qu'il rédige pendant son exil au Maghreb, Ibn al-Khatib insiste sur l'hospitalité, la générosité de Pierre Ier. Il dit qu'il lui aurait promis son aide sans aucune compensation. Il insiste vraiment sur le caractère désintéressé de cette aide, alors que les sources chrétiennes, elles, insistent plutôt sur le bénéfice qu'espère trouver Pierre Ier en aidant Mohammed V. Donc il espère aussi récupérer des terres à Grenade, puisque dans le pacte qu'il établit avec Mohammed V, chacun doit récupérer des terres, les terres que chacun peut conquérir à l'usurpateur, il peut les garder. Donc il est probable qu'Ibn al-Khatib insiste sur le caractère désintéressé de Pierre Ier, contrairement aux sources chrétiennes, pour ne pas montrer que Mohammed V serait prêt à négocier des terres avec l'infidèle contre d'autres musulmans. C'est donc en grande partie le pragmatisme politique qui pousse Pierre Ier à venir en aide au sultan de Grenade, même s'il y a un devoir imposé par les liens vassaliques. Et on retrouve cette même motivation intéressée chez Mohammed V, et également Ibn al-Khatib, au moment de venir en aide au roi castillan, qui cette fois se retrouve lui aussi dans une situation difficile. Il est en guerre contre son demi-frère Henri de Trastamare, qui menace de le détrôner. Donc dans un extrait de Al-Hatta fi Akhbari Gharnata, sa chronique du royaume de Grenade, Ibn al-Khatib déclare avoir donné des conseils à Pierre Ier, lorsqu'il était affligé par la guerre civile avec son demi-frère. Il s'agit de conseils pratiques, stratégiques, comme il le dit lui-même. Il l'exhorte tout d'abord à la méfiance et la prudence, tant vis-à-vis de son peuple que des partisans de son demi-frère, bien évidemment. Il lui recommande aussi de trouver un refuge pour y cacher son fils et ses trésors, donc ce qu'il va faire à Carmona. Mais le vizir avoue ensuite la véritable motivation de ses conseils, celle qui est diviser les chrétiens pour que la guerre civile continue entre eux et bénéficie aux musulmans, puisque quand ils font la guerre entre eux, ils ne la font pas aux musulmans, et donc ceux-ci espèrent pouvoir tirer un bénéfice, notamment en récupérant des terres, et éradiquer ainsi l'infidélité, c'est lui-même qui le dit. Donc il s'agit de conseils certes intéressés, mais qui témoignent tout de même d'une relation privilégiée entre le sage musulman et le monarque chrétien. Et dans une autre source d'Ibn al-Khatib, Kitab al-A'mal al-A'lam, lui-même écrit encore une fois avoir conseillé Pierre Ier dans un autre contexte. Il raconte comment le roi chrétien lui envoya son émissaire, un émissaire juif, Abraham ibn Zarzar, comment il lui envoyait cet émissaire à l'Alhambra afin de le consulter au sujet d'une lettre qu'aurait écrite le sultan mérinide Abu Zayan Muhammad à Pierre Ier, puisque Pierre Ier avait également aidé ce sultan mérinide à récupérer son trône. Donc il s'agit également de conseils vraiment concrets qui concernent les relations diplomatiques entre la Castille et le Maghreb, mais c'est surtout l'occasion pour le vizir de Grenade de donner une petite leçon au roi chrétien qui se plaint de l'ingratitude du mérinide à qui il était venu en aide. Voilà, je ne développe pas plus, mais pour montrer que voilà, il y avait quand même des échanges peut-être fréquents entre Ibn al-Khatib et Pierre Ier, qui, en tout cas, à deux reprises, il dit Ibn al-Khatib qu'il a conseillé Pierre Ier. Et d'ailleurs, cette figure de conseiller du roi Pierre Ier a été instrumentalisée par les sources castillanes à travers les lettres du sage mort, la Cartas del Moro Sabidor, des lettres qui ont été intégrées à la chronique de Pedro López de Ayala. Et dans celle-ci, le sage appelé Ben al-Khatib ou Ben al-Khatib conseille Pierre Ier menacé par son demi-frère Henri de Trastamare. Il s'agit encore là de conseils pratiques, des conseils de bonne gouvernance pour se maintenir sur le trône. C'est pourquoi certains chercheurs y ont vu des points communs avec les propos, avec d'autres écrits d'Ibn al-Khatib, des sources arabes, des propos qui sont souvent guidés par un certain pragmatisme politique. C'est pour cela également qu'on l'a souvent comparé à Machiavel, comme cela est dit dans le film. Donc ainsi, même si les relations entre Grenade et la Castille sont ambiguës, elles se caractérisent par beaucoup de contacts diplomatiques, de collaborations militaires, d'alliances politiques. Et cette situation a de riches conséquences sur le plan artistique des deux côtés de la frontière, puisque s'opère une constante émulation entre les deux cours. Pierre Ier, comme Mohammed V, ont besoin, on l'a vu, de développer un programme architectural destiné à exalter leur pouvoir, se légitimer de manière symbolique. On trouve dans l'Alhambra de Grenade et l'Alcazar de Séville de nombreux exemples communs de représentation du pouvoir. Par exemple, la Kouba, dont on a parlé, est un élément clé de la représentation symbolique du pouvoir royal, puisqu'elle véhicule tout un système de correspondance entre pouvoir terrestre et spirituel, comme l'a très bien montré Ressus, donc à travers la coupole de Comares et ses sept cieux également développés par José Miguel. Mais il faut dire que le modèle de la Cuba est déjà assimilé en Castille avant Pierre Ier. C'est un long processus d'assimilation qu'ont connu les royaumes chrétiens, assimilation des modèles architecturaux islamiques. Un autre, donc vous voyez ici le salon de Comares qu'on a vu déjà plusieurs reprises, et ici l'équivalent du salon du trône de l'Alcazar de Séville, appelé Salon de la Media Naranja, justement parce qu'il y a eu cette coupole. Donc cette coupole était ajoutée par la suite, puisque les palais de Pierre Ier étaient inachevés, mais on voit cette structure de plan central. Une coupole était bien prévue à l'époque de Pierre Ier, et celle-ci a été ajoutée par la suite. Mais voilà, on voit qu'on retrouve cette symbolique destinée à faire le lien entre pouvoir de Dieu et pouvoir céleste et pouvoir terrestre. Un autre exemple commun aux deux royaumes, en ce qui concerne la représentation du pouvoir, est celui des inscriptions arabes à la gloire de Dieu et du souverain, qui se trouve donc à l'Alhambra. On retrouve tout un programme épigraphique également dans l'Alcazar chrétien. Donc ces phrases qui aboutissent à la sacralisation de l'espace réservé au monarque. Donc on voit ici la phrase qui est répétée vraiment un grand nombre de fois sur les murs de l'Alcazar et qui reprend exactement la formule que l'on trouve à l'Alhambra, une formule pour glorifier le souverain. Donc « Aïz al-Maroulana al-Sultan dun bidru ayadahollah » Donc voilà, juste on retrouve le nom de Don Pedro à la place du sultan Al-Rani Billah. Et donc, voilà, encore une fois, Pierre Ier développe un programme épigraphique très ambitieux inspiré de l'Alhambra, mais ces codes épigraphiques étaient déjà assimilés en Castille depuis le XIIIe siècle, même si Pierre Ier les pousse à leur paroxysme. notamment en raison de cette proximité avec Grenade, de cette proximité qui est également empreinte d'une rivalité, hein, émulation implique évidemment une certaine rivalité entre les deux souverains qui étaient alliés, mais il y avait toujours cet espoir de récupérer Al-Andalus chez les Nasrides et de mettre les musulmans dehors de la part des Castillans. On voit cette rivalité également à travers l'appropriation de la devise Nasride, dont on a parlé tout à l'heure, Wala Ghaliba illallah, cette devise qu'on retrouve sur les murs de l'Alcazar, à de nombreux endroits, mais ici, voilà, en koufique géométrique, enfin, un style vraiment très, très élaboré. Et donc Pierre Ier s'inspire fortement de l'Alhambra dans ses palais, mais certains éléments de Castille semblent aussi avoir influencé l'Alhambra. Cette question est abordée dans le film, notamment celle de l'influence chrétienne dans le Palais des Lions. Le Palais des Lions dont la cour est comparée à un cloître chrétien, ou les peintures de la salle de la justice. Donc la question de l'interaction des influences entre Al-Andalus et la Castille, entre l'islam et la chrétienté en général, est toujours un sujet problématique en raison de considérations terminologiques, méthodologiques, idéologiques aussi, que je ne vais pas développer ici par manque de temps, mais je vais tenter de donner un bref aperçu de la complexité et de la richesse des flux culturels entre Grenade et la Castille, qui explique le caractère exceptionnel des monuments dont il est ici question, l'Alhambra et l'Alcazar de Séville. Donc pour cela, il convient de revenir sur la chronologie des palais de ses souverains. Donc les palais de Pierre Ier. Alors avant Séville, Pierre Ier avait construit également des palais comme des premières ébauches, Astudillo en 1353, Tordesillas en 1354. Et donc Séville commençait en 1356, mais la construction est inachevée en raison de la guerre civile avec son demi-frère, que j'ai déjà évoqué. Donc ce n'est pas le premier à construire des palais d'inspiration islamique, il hérite d'un long processus d'assimilation, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ce processus atteint son paroxysme sous son règne. En ce qui concerne l'Alhambra, donc on l'a vu, c'est Youssouf Ier commence la construction de ses palais, le palais de Comares, qui est achevé par Mohamed V, probablement après la récupération de son trône en 1362. Et voilà, là il y a encore quelques incertitudes sur la chronologie, enfin, il y a eu plusieurs interprétations, de savoir si les palais avaient été commencés durant la première partie de son règne ou après la récupération de son trône. Voilà, les historiens de l'art divergent à ce propos, mais peut-être qu'il y a eu quelques avancées dont on pourra discuter à la fin. Donc il commence probablement l'édification du Riyad al-Saïd, le jardin heureux ou palais des lions, après 1362. Dans ce cas-là, il serait postérieur au palais de Pierre Ier. Et Antonio Almagro, l'architecte qui a beaucoup travaillé sur les palais de Pierre Ier, pense que l'Alhambra doit aussi beaucoup aux innovations de Pierre Ier. Par exemple, on le voit dans ses façades. On a parlé déjà de la façade de Comares, que l'Alhambra serait postérieure à celle de la Monteria, qui présente celle de l'Alcazar de Séville, qui date au plus tard de 1366, alors que la façade de Comares aurait été érigée en 1369 pour commémorer la reprise d'Algeciras par les Nasrides. La cour des Lions aussi a été comparée à un cloître chrétien qui aurait pu s'inspirer du modèle de la cour du palais de Tordesillas, un jardin de plan rectangulaire entouré par des galeries, avec des pavillons qui s'avancent sur les côtés, hein, comme on le voit là dans la cour des Lions. Tordesillas est aussi antérieur au Palais des Lions. Mais alors, cette chronologie est toujours quelque peu incertaine, complexe. Il semble vain de chercher à savoir qui a influencé le premier. Les cours de Grenade et de Castille jouissent en effet d'une ambiance artistique commune, s'influencent mutuellement. Beaucoup de spécialistes de la question parlent aujourd'hui d'une culture de cours commune, certes avec des variations de part et d'autre de la frontière, mais c'est un cadre qui permet en quelque sorte aussi de dépasser le schéma du modèle copiste ou débiteur et créditeur, souvent lié à la question de l'héritage culturel. De même, la question de la religion des artisans ou des artistes semble secondaire. En tout cas, elle ne suffit pas à expliquer ces phénomènes de coïncidence artistique. Probablement, il y a eu des artisans nasrides qui ont travaillé dans les palais de Pierre Ier, même s'il n'y a pas de source. Mais voilà, étant donné les contacts, le fait que beaucoup de nasrides aient séjourné à la cour de Pierre Ier, on peut en déduire que des artisans nasrides ont travaillé dans les palais de Pierre Ier. Également, la question de l'artisan chrétien qui aurait travaillé dans les palais, sur ces peintures de l'Alhambra. Voilà, il y a eu beaucoup de polémiques pour savoir qui avait fait ces peintures. Donc, dans le film, on voit que toi, Jesús, tu penses que c'est plutôt un artisan chrétien. Elena Correa pense que ça a été fait à Grenade par un artiste de Grenade. Mais finalement, ce n'est peut-être pas la question qui est la plus importante, puisque ce qui compte, c'est vraiment ce que voulaient les souverains. C'est eux qui commandaient ce qui devait apparaître dans leur palais. Donc, récemment, en 2008, c'est plus si récent, il y a un volume qui est paru de Medieval Encounters sur ces peintures de l'Alhambra, et tous les spécialistes s'accordent pour dire que ce programme est pleinement intégré dans l'Alhambra, même si il y a eu probablement des influences d'un style plus européen, puisque les scènes décrites, à part les scènes qui représentent les personnages, sur lesquelles il y a aussi beaucoup de divergences concernant l'interprétation des sultans, des membres qui assistaient à une sorte de majlis, une tertulia culturelle. Voilà, mais beaucoup de scènes font penser des scènes courtoises entre des dames, des chevaliers, dans un jardin, donc plus de tradition occidentale. Mais celles-ci apparaissent complètement intégrées à leur cadre. Et le programme iconographique a bien été élaboré sous l'égide de la cour nasride. Ce n'est pas forcément une influence étrangère d'un artiste chrétien qui serait venu. Mais donc ces scènes reflètent surtout la circulation de références littéraires, artistiques, ainsi que leur adaptation au contexte. Et elles sont considérées comme représentant un microcosme de la culture ibérique médiévale, commune aux trois religions. Une culture qui n'est pas pour autant exemple de contradiction ou d'ambiguïté. Voilà, il y a eu aussi des interprétations concernant ces peintures et leur intégration dans le cadre. Juan Carlos Ruiz Sauza pense que la salle des rois était une sorte de bibliothèque institutionnelle. Alors là, je ne sais pas si les avis divergent également, mais que donc les livres présents dans cette bibliothèque évoqueraient les scènes représentées sur ces peintures. Voilà, Cynthia Robinson pense que ces scènes offraient au public la possibilité de raconter des histoires liées au contexte de cour, débattre des actions de la noblesse, puisqu'elles représentent aussi beaucoup de scènes courtoises, des chevaliers chrétiens et musulmans qui s'affrontent pour l'amour d'une dame. Et on voit ici que c'est le musulman qui l'emporte sur le chrétien. Voilà, donc vraiment une circulation de références partagées de part et d'autre de la frontière. Et on voit donc que les relations politiques et artistiques entre Grenade et la Castille, à l'époque d'Ibn al-Khatib, sont caractérisées par le pragmatisme politique et l'émulation artistique. Et elles sont en quelque sorte représentatives des ambivalences de la convivencia, puisque comme le montre Thomas Glick, le terme de convivencia peut se définir comme une forme de coexistence qui implique des alliances, des phénomènes d'interpénétration, une influence créative, mais c'est un phénomène qui inclut également des désaccords mutuels, des rivalités et certaines formes de méfiance vis-à-vis de l'autre. Donc un concept ambivalent qui, à mon avis, exprime parfaitement la réalité du XIVe siècle entre Grenade et la Castille. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé d'être brève.